David Ganoudzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Fidélité et Gestion. On va parler avec vous de l'actualité sur ces marchés et de perspectives. On le sent bien aujourd'hui, les investisseurs se sont en tout cas engouffrés dans la brèche action pour donner des montants importants. Comment on analyse ce type de phénomène? C'est la quête de rendement avant tout?
C'est la quête de rendement, effectivement, puisqu'on en reste dans un environnement où les taux d'intérêt sont extrêmement bas et où donc les grandes classes d'actifs sont très peu rémunératrices, mis à part les actions. Et puis je crois aussi qu'il y a quand même des signaux d'amélioration, notamment sur la zone euro, qui donnent quand même une bouffée d'oxygène au marché actions, puisqu'on a des marchés qui se sont pas si mal comportés depuis quelques années, mais qui, depuis le début de cette année, s'améliorent surtout, je crois, parce que les perspectives macroéconomiques sont en train de s'améliorer et qu'on assiste à un redémarrage de la croissance, notamment dans la zone euro.
Alors on sait aussi que les banques centrales, quelque part, ont incité avec leur politique monétaire les investisseurs à le faire. On a eu aussi des phénomènes importants comme le pétrole, le dollar. Il y a eu une conjonction favorable pour les actions?
Oui, disons qu'effectivement, on a connu sur la seconde partie de l'année dernière et encore au début de cette année des chocs assez importants qui ont été au global plutôt positifs, voire très positifs pour les économies et donc les marchés actions. Vous avez cité la baisse du prix du pétrole qui est effectivement un contre-choc majeur et ça, c'est un élément de soutien à la croissance dans les pays développés. En gros, les pays émergents sont plutôt perdants, hein, mais les pays développés sont plutôt gagnants de cette forte baisse du prix du pétrole. L'autre élément qui a joué, je crois, pour l'Europe en particulier, c'est quand même les mouvements de change avec une très forte dépréciation de l'euro face au dollar, qui est une forme de transfert de croissance des États-Unis, où ça va plutôt bien, vers l'Europe, où on était un peu à la traîne. Donc ça rééquilibre un peu les perspectives de croissance. Et puis effectivement, il y a les banques centrales qui appuient sur le champignon, si on peut dire, avec en particulier la BCE, qui a longtemps été assez prudente et qui, au début de cette année, est passée au quantitative easing, ce qui a permis au taux d'intérêt d'atteindre des niveaux records, hein, puisqu'on est quasiment à zéro, voire des taux négatifs sur les taux des obligations d'État européennes. Donc effectivement, on a eu un cocktail en particulier pour l'Europe qui a été, je dirais, extrêmement positif et dopant pour les marchés actions, comme on l'a vu sur le premier trimestre de cette année.
Oui, parce qu'il y avait des investisseurs qui avaient quelque part, il y avait eu les performances américaines du marché de Wall Street, et puis des flux qui sont arrivés vers l'Europe. Et la Banque centrale, quelque part, a accompagné encore, a renforcé encore ce sentiment positif.
C'est exactement ça. Je crois qu'on avait déjà des éléments très positifs pour l'Europe et l'action de la Banque centrale européenne, en particulier le quantitative easing, ça a été un peu la cerise sur le gâteau, hein. Je ne crois pas que c'est ça qui ait provoqué cette très forte hausse des marchés actions, mais ça a vraiment permis d'accompagner. Alors qu'effectivement, l'Europe, notamment par rapport aux États-Unis, était très à la traîne, hein, puisque l'année dernière, le marché actions américain a très très bien performé. Alors les marchés actions européens, pas si mal que ça non plus, mais ils étaient quand même très en retard par rapport au marché américain.
Alors, quand on regarde la politique de la réserve fédérale américaine, on voit ce consensus, hein, sur les taux qui étaient juin 2015, pour simplifier, évoluer. Certains évoquent septembre, il y en a qui évoquent novembre. Donc, au gré un peu des discours et des déclarations donc, qui se font à la suite des réunions de la Fed, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, on est clair sur ce sujet-là?
Je dirais qu'on est plutôt clair sur l'orientation générale, c'est-à-dire qu'il apparaît assez clair désormais, la Réserve fédérale a été, je pense, plutôt limpide sur le sujet. Le processus de normalisation de la politique monétaire, il a été engagé déjà il y a un peu plus d'un an et demi, avec la fin du quantitative easing qui désormais est terminée depuis la fin de 2014, et l'étape suivante, c'est la hausse des taux. Et je pense que là-dessus, c'est très clair de la part de la Réserve fédérale. Ce qui est moins clair, effectivement, c'est le timing et l'ampleur. Et je pense que la raison pour laquelle c'est moins clair, c'est notamment parce que ça dépend beaucoup des chiffres économiques. Donc effectivement, depuis quelques mois, on a un petit coup de frais, on va dire, sur l'économie américaine, avec des chiffres un peu décevants au cours de l'hiver et sur les premiers mois de l'année. Je pense que c'est probablement très transitoire. On risque de voir l'économie réaccélérer. Donc de ce point de vue-là, la Réserve fédérale a effectivement, et les marchés ont décalé les anticipations de hausse des taux courts. Mais je pense que ça peut revenir très vite. On peut avoir un retournement des anticipations assez rapide si les chiffres commencent à s'améliorer. Donc je pense que le message de la Réserve fédérale, il est assez clair. Il est de dire les taux d'intérêt à court terme n'ont plus grand-chose à faire là où ils sont aujourd'hui, parce que l'économie va beaucoup mieux. Maintenant, c'est quand même une approche très très flexible en fonction des chiffres qui sont publiés.
Donc il peut y avoir un peu plus de volatilité si effectivement le scénario tel qu'il se dessine à nouveau est modifié.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, on a eu un recul dans le temps des anticipations de hausse de taux courts. Ça peut revenir très vite si on a des chiffres un peu meilleurs qui montrent une réaccélération de l'économie, ce qui est très possible.
Vous parliez des marchés émergents, effectivement. Alors, on a parlé du pétrole, du dollar. On a vu ces marchés, hein, subir plusieurs chocs. Comment, en tant qu'investisseur, on regarde ces marchés émergents aujourd'hui?
Alors, les marchés émergents, on les regarde déjà de façon. C'est difficile d'avoir une vue très homogène parce que, il y a des économies qui sont extrêmement différentes et qui, notamment, réagissent très différemment aux différents chocs qu'on a connus. Un choc important, ça a quand même été la baisse du prix du pétrole, hein, qui est un choc, on va dire, plutôt négatif pour les émergents. Et on va dire que la baisse du prix des matières premières est plutôt un choc négatif. Par contre, il y a une zone qui s'en sort plutôt bien par rapport à ça dans les pays émergents, c'est l'Asie. Donc, de ce point de vue-là, les pays émergents sont une zone extrêmement disparate et peu homogène, avec d'un côté des gagnants très clairs qui sont plutôt l'Asie, et de l'autre côté des pays qui sont plutôt pénalisés, très dépendants des matières premières ou du prix du pétrole. Et là, on peut penser à l'Europe centrale ou à l'Amérique latine.
Aujourd'hui, on est donc la plupart des investisseurs sont sur ces marchés actions, favorables à ces marchés actions. On voit ce scénario sur les taux américains. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir ajuster à un moment donné les portefeuilles pour éviter de se faire prendre dans le processus peut-être de hausse de taux?
Alors, disons qu'il me semble que si le processus de hausse de taux se passe bien, et a priori, pour le moment, il n'y a pas de raison de penser que ça va mal se passer, dans la mesure où c'est quand même très bien préparé par la Banque centrale américaine, il y a une forme de communication avec les marchés qui est assez efficace, on l'a vu. Je pense que l'exemple du quantitative easing et de la fin du quantitative easing est un très bon exemple, puisqu'on a vu la Réserve fédérale arrêter ce processus-là de façon finalement assez réussie, sans provoquer de tensions majeures sur les marchés. Il peut se passer la même chose sur la prochaine hausse des taux, dans la mesure où la Réserve fédérale communique très bien là-dessus. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça peut bien se passer. Le risque, et ça me semble plutôt être un scénario alternatif et moins probable, ça serait qu'on ait un emballement de l'inflation aux États-Unis, chose qu'on est loin de voir pour le moment, qui pourrait là provoquer une réaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale de la part de la Réserve fédérale. Mais pour le moment, il me semble que le processus de hausse de taux peut se faire de façon, je dirais, assez douce pour les marchés. Alors c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est positif, hein. Les hausses de taux courts, c'est plutôt un élément de freinage pour les marchés financiers. Mais il y a quand même déjà, je dirais, une bonne dose d'intégration de ce phénomène-là dans les marchés. On le voit par exemple quand même sur la courbe des taux américaine, qui est loin d'être plate comme la courbe des taux européenne, hein. Il y a des anticipations de hausse de taux courts dans le marché déjà.
Mot de la fin, quand on voit le sujet grec, on pourrait dire ça a pu faire peur, ça fait plus peur, ça va refaire peur, ça peut revenir, effectivement.
Oui, ça peut revenir, mais il me semble quand même qu'il ne faut pas perdre de vue que l'issue la plus probable, c'est quand même plutôt une forme d'accord, puisque je pense que ni les Grecs, ni les autorités européennes, ni les membres de l'Union européenne n'ont envie de voir la Grèce de sortir. Donc je pense qu'on est dans un processus de négociation qui est dur, qui risque d'être long, qu'il y a des enjeux importants, mais je pense que le scénario extrême de sortie de la Grèce, qui serait quand même un choc important pour les marchés financiers, même s'il ne peut pas être totalement exclu, ça reste un scénario, je dirais, extrême, mais c'est difficile de jouer ça dans un portefeuille aujourd'hui.
Merci David Ganozzi d'avoir fait le point avec nous.
Merci.